bom 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 bom.
La porte est ouverte. Entrez chez les papous. Françoise Tressart et la belle équipe, bonjour. À l'affiche, des histoires de SMS, un pamphlet contre le chewing-gum et retour, le discours de la dernière rondelle de saucisson et un petit mot sur la porte, l'art du contre-paix honnête. Avec Odile Conseil, Jacques Vallée et Ricardo Mosner.
La motion de la pomme dans sa poche.
Oui, c'est marrant parce que ça paraît plus court.
L'homme, pomme, poche, moche, motion, potion.
Oh bah oui.
Je sais pas qu'est-ce qu'on peut chercher de plus.
Viendra le moment du DLA avec une œuvre piégeuse choisie par Dominique Muller. Pour les experts, Gérard Mordilla, Jacques Jouet, Patrice Delbourg et Patrice Minet.
Mais ils sont couchés dans un lit en petite cuillère, si vous préférez. Et elle n'ose pas se retourner. Elle s'est endormie avec une personne, un garçon. Et elle n'ose pas se réveiller parce qu'elle a peur de voir le visage de la personne qui est à côté d'elle. Ça n'est pas érotique, c'est sentimental. Et on parle du cœur.
Merci de votre fidélité à nos jeux papouesques. Et bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois. Une émission à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter 1000 jours à la page des papous où vous pouvez bien sûr déposer vos questions, remarques, rubriques, commentaires. Les papous, c'est parti avec une histoire tout en SMS. Et c'est Patrick Beignet qui l'a imaginée. Et pour l'occasion, Patrick Beignet, vous endossez les habits d'un autre. Qui êtes-vous ?
Fitant de Paulette.
Oui, ouais. Ben, pourquoi pas.
Ben oui, j'envoie des SMS à une de mes nièces.
Oui.
À 18h05, le premier SMS. Tu mets les navets soigneusement épluchés, je dis bien soigneusement, pas comme tu fais d'habitude. Tu les mets dans la casserole où tu aurais dû mettre à mijoter les filets de maquereau depuis 3/4 d'heure. Tu ajoutes 2 cuillerées de vinaigre et la moitié de la bouteille d'alcool de banane que l'oncle Georges a rapporté de Malte en juillet 55. Quand il était allé représenter la France au couronnement de l'empereur. La moitié, hein, et pas tout, il paraît que c'est très fort. Tu m'envoies un autre SMS quand tu auras fait tout ça, sans oublier la crème de marron. 18h47. Maintenant, tu ajoutes la farine et 2 jaunes d'œufs. Tu poivres, tu mets du gingembre. Si ça prend feu, tu ajoutes la purée de hareng. En principe, ça éteint tout. Pour l'alcool de banane, je me suis trompé. C'est pas l'oncle Georges qui l'a rapporté de Malte, c'est Choragnier. Philippe, le petit choragnier, comme nous disions. Remarque, ça change rien pour la recette. Il aimait beaucoup la crème de marron, Philippe. 19h23. Non, tu as sûrement pas connu le petit choragnier. Il s'est suicidé avant ta naissance. Dommage, il était si charmant. Tu as pas oublié les 2 tranches de jambon. Maintenant, tu prépares la béchamel que tu verseras. Tu mets le tout dans un grand plat et tu fais gratiner. Je suis certaine que tes invités vont adorer ça et que tu me remercieras.
Vous n'étiez pas invité, Hervé Le Tellier.
Non, je trouve que le secret, c'est les 2 tranches de jambon à la fin. Ouais. C'est ça la bonne idée, je crois. Ouais. C'est ça qui emporte toute l'affaire.
À vos pamphlets. Le pamphlet, arme de grogne massive, râler, c'est un titre bien français. Râler contre tout et son contraire, pester contre les petites choses, pas graves, mais qui hérissent, agacent le quotidien. Et aujourd'hui, c'est un exercice proposé à Jacques Vallée et Patrice Delbourg en défenseur de ce qui trouble Jacques. Il est contre quoi, Jacques Vallée ? Son ton est naturellement bourru, il nous fait toujours un peu peur, il n'est pas commun déjà.
Je suis contre le chewing-gum et les mangeurs de chewing-gum.
Ah. Ah bon ? Oui.
Moi, la libération, c'est grâce à l'arrivée des Américains que j'ai découvert le chewing-gum. Cette pâte à mâcher qu'on mâchonne machinalement pendant des heures. J'ai d'abord été conquis. J'ai collectionné, enfant, les papiers qui enveloppent les tablettes. Pas l'emballage en aluminium qui conserve la saveur, mais les papiers indiquant les différentes marques. Hollywood, Dandy, Créma, Chiclets. Il y en avait de toutes les couleurs, selon que la gomme était parfumée à la menthe, aux fruits ou caféinée.
Et la chlorophylle alors, non ?
Oui, ben,
la menthe.
La menthe et la chlorophylle, c'est pareil.
Oui,
ah bon, ça se ressemble, oui, bah ça se ressemble à peu.
Ça n'a encore pas.
Au Japon, il y a un chewing-gum caféiné noir qui s'appelle Black Black. Bref, ce machin que je mâchonnais à me décrocher les mâchoires m'a fait énormément ruminer. Puis, j'ai pris conscience du côté bovin de la chose. Pas que j'ai quelque chose contre les vaches, au contraire.
Ah bon.
J'ai rêvé un jour d'un front de libération des vaches. Et je souscris au credo du poète Essénine, tout comprendre et ne rien prendre, c'est pour ça que le poète est venu sur Terre et pour embrasser les vaches. Mais je ne supporte plus quelqu'un qui mâche effrontément son chewing-gum face de moi. On dit que ça aide à se concentrer. Voir, c'est une occupation si prenante qu'un président américain a montré qu'on ne pouvait pas faire autre chose en mâchant sa gomme, même pas descendre des marches. Et puis, c'est pas commode de communiquer avec un type qui a un chewing-gum dans la bouche. Soit vous ne comprenez pas ce mâchonnement des mots qui se mélange au mouvement des mâchoires, soit vous faites une fâcheuse fixation sur sa mastication, cette façon malpropre de remuer ses mandibules pour malaxer et ramollir ce mélange de chiclet et de gélatine. Passons sur la grossièreté, l'inélégance, la laideur de la chose. Après tout, chacun est libre de se comporter comme un veau. Mais une fois que vous en avez marre de mastiquer, que faites-vous ? J'en connais qui le conservent dans leur mouchoir en vue d'une petite ressucée. D'autres, s'ils sont à l'intérieur d'un appartement, collent la boulette usagée sous une table, une chaise, un meuble, et dans la rue. Vous êtes-vous demandé d'où venaient ces milliers de taches grises jaunâtres qui constellent les trottoirs, les couloirs du métro ? Ce sont des tonnes de chewing-gum usagés qui sont collés sur le sol, piétinés et étalés, qu'il est extrêmement difficile d'enlever et qui peuvent rester là des années sans se détériorer. Imaginez la fortune qu'il faudrait dépenser pour les éliminer. Enfin, si, comme le prétendent certaines études, mâcher du chewing-gum améliore l'humeur de celui qui en consomme, moi, l'idée même de chewing-gum me met de mauvaise humeur.
Ah, oh ben, on l'a entendu. Oui, ça, c'est vrai. Il est très, très remonté, hein.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas cité une seule fois le Malabar.
Non. Qui est quand même délicieux. Ni le plaisir de faire des bulles.
Oui, j'ai cité des marques lorsque je faisais collection et le Malabar, il date après. Le Malabar, il est très récent. Le Malabar est une marque récente, monsieur.
Toute nouvelle.
Par rapport à moi.
Oui.
Je suis en train de regarder sous la table depuis 20 ans les chewing-gums que je colle.
Oui, ce sont les vôtres.
C'était pas contre toi, hein, c'est contre les mangeurs de chewing-gum.
Vous l'avez regardé quand même. Hein.
Ils sont là.
On sait bien, Patrice Delbourg, que vous collez vos chewing-gums un peu partout. C'est un petit peu comme les animaux qui marquent leur territoire.
C'est vrai. Hein? C'est vrai. Quelquefois, j'essaye de composer les couleurs. 10-15 ans après, j'essaye de retrouver deux Malabar roses ensemble, deux Hollywood verts ensemble.
Donc, ouais. Vous aimez les chewing-gums. Oui, vous êtes contre le point de vue de Jacques Vallée.
Je parle en mon nom, évidemment.
Oui, alors.
Désolé, Jacques. Ouais. Désolé de contrarier votre élégance naturelle. Mais je mâchonne régulièrement du latex depuis le 22 novembre 1963. Oui, depuis l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas. Je me souviens, j'étais alors rue de Braque, dans la cuisine maternelle, et je suis resté comme deux ronds de flanc terrassés par la nouvelle. Sidéré, ébahi, liquéfié j'étais. L'œil vague et la mâchoire pendante. Du coup, je me suis fourré un bon peu de gomme à mâcher dans les mandibules, histoire de prendre contenance le soir au repas avec mon père, ma mère. C'est fou comme le latex redonne du maintien au maxillaire quand on a un coup de mou. Et depuis ce jour-là, la sève du sapotier, le caoutchouc buccal, le chiclet, quoi, me sert d'assurance, de tuteur moral à chaque moment difficile de mon existence. Ainsi, la défaite contre l'Allemagne à Séville, en demi-finale de la Coupe du Monde de football, Le Pen au second tour, Catherine Pancol en livre de poche, Jean-Jacques Goldman, chanteur préféré des Français, Giscard d'Estaing à l'Académie française. Alors, c'est plus fort que moi, je mâchouille, je mastique, je triture. Face à un interlocuteur dont les palabres m'agacent, je mastique l'œil fixe, la badine badine. Ça m'évite de le gifler. Les nouvelles domestiques me poussent également à la consommation de tablettes Hollywood à la gélatine bifluorée sous emballage d'aluminium ou au Malabar couleur layette qui vous fait gonfler de si jolis petits zeppelins. Une petite fuite au siphon de la baignoire, un vitrage qui cède, une serrure qui grince, un arriéré d'un pot. Qu'est-ce que vous voulez, je chic, je mâchonne, je remâche, je rumine. Quelques camarades bien nés
avec une petite cuillère d'argent sur la langue, me reproche souvent cette hébétude de ruminant. Mais l'hébétude est chez moi une seconde nature. Cette fraîcheur mentholée est soudaine près de la glotte m'enchante. Mon transit digestif s'en trouve apaisé. Le sorbitol améliore mon sommeil et je n'ai plus une haleine de facochère, moi. J'ai pu, jusqu'à un âge avancé, conserver une dentition de ténor, alors que tout chez moi se déglingue. Ce sursaut de chlorophylle à l'automne de ma vie, le dois-je à mon cher chewing-gum, mystère et boule de gomme.
Bon, vous voyez, c'est quand même joli, il a un vrai point de vue, Patrice Delbourg, il est contraire au vôtre, évidemment.
Sauf que je suis un peu étonné que, le soir de l'assassinat de Kennedy, il aille à table et qu'il prenne un chewing-gum en mangeant.
Ma mère faisait très mal la cuisine.
Me upon your knee, tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we on a telephone. Dear, day will break and you're gonna wake and start to bake a sugar cake for me to take for all the girls to see.
Classique revisité, comme on dit, par Émilie Loiseau. À quoi tu penses, Lucas ?
Je pense que Serge est complètement à l'ouest aujourd'hui.
Mais toujours, oui, toujours.
Oui, mais non, mais ça tombe bien d'ailleurs, parce que à l'ouest, justement, il y sera, Serge, et plein ouest, à Brest, le 6 février,
et oui,
avec JB, avec Dominique Muller, avec Violaine Schwartz, avec Hervé Le Tellier, et même avec vous, Françoise, à Brest, le 6 février.
Et avec vous aussi, Lucas Fournier. Les Papous en public à Brest, à l'invitation de Longueur d'onde, le festival de la radio, dont France Culture est partenaire. C'est samedi prochain, le 6 février, à 20h. 2 heures de récréation littéraire et même un petit peu plus dans la grande salle du Quartz. Une soirée à laquelle vous êtes tous conviés, que vous habitiez Brest ou sa région ou que vous soyez de passage en Bretagne. Nous vous attendons. Plus on est nombreux, plus c'est joyeux. L'entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 1000 places, c'est pas mal, non? Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur notre page des Papous dans la tête du jour, à l'avis du club aussi et sur Facebook. Donc, vous notez samedi prochain au Quartz de Brest à 20h, les Papous en public pour Longueur d'onde avec Dominique Muller, Jean-Bernard Pouy, Hervé Le Tellier, Violaine Schwartz, Lucas Fournier et Serge Joncourt.
Vous êtes sur France Papou et vous écoutez la culture, ou vice-versa.
Oui, c'est exact, Hervé. Et maintenant, c'est le moment des classes de rhétorique papou pour orateurs amateurs. Et sur l'estrade, Clémentine Mélois et vous, Hervé. Alors, vous manquez d'expérience, mais vous devez vous exprimer en public. C'est difficile et périlleux, que ce soit devant 10 ou 100 personnes, un auditoire complice ou hostile, il faudra trouver les mots justes pour convaincre et rallier à vous un public qui a hâte de passer au buffet jus d'orange champagne. un peu de coaching est donc nécessaire. Alors, avec Clémentine Mélois, toute nouvelle papoue, sa voix douce et fraîche, dans un rôle de composition. Vous êtes Clémentine ?
Alors, je suis la dernière rondelle de saucisson oubliée dans la coupelle à l'heure de l'apéritif. Et je suis très fâchée. Je suis ici pour porter la parole de toutes mes camarades, pour alerter l'opinion publique sur notre condition.
Ah oui, nous les rondelles, quoi.
Vous, enfin, les dernières, vous tous, les dernières rondelles, mes consoeurs, mes sœurs d'armes, mais également l'opinion publique, les décideurs, la population en général, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, comme ça, dans l'ombre chaque jour.
Donc c'est nous le public, les décideurs, on n'est pas des cacahuètes.
Vous n'êtes pas des cacahuètes.
Des gens qui ont le même genre de
Vous n'êtes pas des cacahuètes.
Une pistache à la limite, mais une cacahuète, non.
Bon, très bien, on vous écoute.
Bonjour à tous. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est au nom de toutes mes camarades, afin d'alerter l'opinion publique et les médias sur notre condition indigne. Nous, les obscurs, les sans-grades, celles que tout le monde feint d'ignorer, celles qu'on abandonne à une solitude abjecte. Nous, la dernière rondelle de saucisson laissée dans la coupelle à l'heure de l'apéritif. Le salaud qui a décrété dans un guide des bonnes manières qu'il est de bon ton de laisser le dernier amuse-gueule nous a condamnés à vivre en paria. Qui se préoccupe de nous ? Personne n'a idée de la solitude terrible qu'on nous impose. Henri David Thoreau, seul dans ses bois, c'est des RTT sur la Riviera comparé à ce qu'on vit. Tout le monde nous voit, mais personne ne nous regarde. Quand par chance, un convive courageux, sensible à notre sort, se dévoue, il doit se justifier. Je prends la dernière, hein ? Puis il nous avale à toute vitesse, honteusement, sans prendre le temps de profiter, en détournant le regard pour ne pas lire le reproche dans celui des autres. Quel avenir pour nous ? Dans le meilleur des cas, la maîtresse de maison nous mangera à la hâte, au moment de remplir le lave-vaisselle, machinalement, pour ne pas gâcher. Ou pire, on nous donnera aux chiens.
Oh.
Pourquoi nous ? Pourquoi moi ?
Quelle horreur !
J'attends dans cette assiette, offerte, à l'anguille, toujours disposée, luisante et grasse, telle une Vénus du Titien,
bah oui.
Presque suppliante, et vous me laissez là, comme une vieille chaussette, sans un regard. Pourquoi tant de mépris ? Qu'est-ce que les autres ont de plus que moi ? Je ne suis pas assez fine ? C'est ma peau qui est trop épaisse, c'est ça ?
C'est vrai, oui.
Oh non, c'est pas vrai,
non, ne répondez
pas.
Non. Vous voyez, vous dites des bêtises. Alors on assiste parfois à des levées de boucliers en faveur du pauvre petit pois oublié au fond de la boîte. Laissez-moi rire. Le petit pois ne connaît pas sa chance. Le cas est commun, mais pas systématique. Il est tout au plus victime d'un oubli malencontreux, d'une légère négligence. Nous autres, mes camarades et moi, sommes délibérément ignorés. C'est pas comparable. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on ressent dans ces moments-là. Et tout cela, bien entendu, dans l'indifférence générale. Notre infortune est un sujet tabou pour les journalistes, il faut le savoir. Alors qu'une injustice flagrante est renouvelée quotidiennement au vu et au su de tous, pas un article dans le Huffington Post, pas un tweet d'Edoui Plenel, pas le moindre petit reportage aux 20h de David Pujadas.
C'est vrai ça. Hein
ouais, les gens sont lâches.
Ouais. Bah oui,
je
oui.
regarde TF1.
Depuis la baronne Staff et ses manuels iniques sur les usages du monde et les prétendues règles de savoir-vivre, les habitudes de table sont prises, définitivement ancrées dans les mœurs. Personne ne songe plus à les remettre en question. Tout le monde s'en fout. Voilà la vérité. Regardez aux États-Unis. Là-bas, c'est différent. On nous choisit, on nous désire. Pour un peu, les gens se battraient pour nous avoir. Le Nouveau Monde, terre de pionniers, a toujours eu un esprit de conquête plus développé que le vieux continent. Alors, aujourd'hui, nous sommes en droit d'attendre un geste qui aurait valeur de symbole. Par exemple, une journée mondiale des oubliés de l'apéro dînatoire. C'est un terme générique non discriminant où pourront également se reconnaître nos frères et nos sœurs de lutte comme les cacahuètes,
ah,
les olives fourrées, voilà, les verrines, les petits canapés.
Ah, les verrines.
Alors pourquoi pas le 2 février ? C'est déjà la journée mondiale des zones humides. Ou le 4 mai, la journée mondiale Star Wars. Je vous laisse juge, nous comptons sur vous. Et pour terminer sur une note poétique, j'aimerais vous quitter sur des vers qui n'ont pas pris une ride, du grand Charles Baudelaire, qui savait comme personne dire toute la noirceur du monde. Le calvaire est semblable avant chaque dîner, isolé sur l'assiette et partout s'ignoré, la dernière rondelle n'a pas Dieu pour pleurer. Merci à tous de votre attention.
Je suis triste, oh, bravo, bravo.
Merci beaucoup.
Vive la rondelle.
Pardon, pardon.
Oui.
Pardon.
Vous avez la parole.
Merci.
Hein. Vous êtes qui ?
Le petit pois. Ah.
On a toujours besoin d'un petit pois chez soi.
Hein? Oui, il est pas frais, celui-là.
Pour cet alexandrin, on se souvient de moi. Bon, je suis le petit pois, le vert, l'assaisonné. Aux oignons, carottes, on m'a conditionné. Et quand j'entends se plaindre autant cette rondelle, je me dis, lève-toi, il faut que tu t'en mêles. Tu te dois de parler de façon lumineuse pour défendre l'honneur de la légumineuse. C'est pourquoi je me dresse, car oui, je suis en boule, humilié, dénigré, au milieu de la foule, de mes pauvres amis. Oui, je suis le dernier dans ma boîte en fer-blanc, on m'a abandonné. Mais je ne me plains pas de ce sort plébéien. On m'a tant répété que je ne valais rien. C'est pourquoi je m'indigne, au fond de ma poubelle, devant le gros égo d'une simple rondelle. En quoi valons-nous moins qu'un bout de saucisson? Sommes-nous moins martyrs, car nous serions légion? Quand on nous pique, ne souffrons-nous pas? Quand on nous mâche, ne nous écrasons-nous pas? Et quand on nous oublie, ne déprimons-nous pas? Je vais pousser ce cri juste avant que j'expire. Petit pois ou rondelle, c'est notre sort le pire. Debout, les damnés de la boîte, debout, bondelle et casse-grain. On a de quoi être vénère, non mais c'est vrai quoi, à la fin. Bon, sois sage, ô ma colère, et tiens-toi plus tranquille. Car tu m'entraînes hélas loin de l'alexandrin.
Oui, ça c'est vrai.
Ça fait un moment. Hein.
Oui, c'est... j'ai eu des moments de vide. Il faut des aliments, des états généraux. Car devant l'être humain, nous sommes tous égaux. J'affirme, un petit pois vaut tout un saucisson, et ce sera à rondelle ma seule conclusion.
Bravo, bravo, bravo.
Così, col sole in fronte e felice canto, allegramente voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Oh, la 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 la, caruggero impertinente menestrel dell'amor. Oh, la più ricca delle piante tiene in petto questo cuor, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto, canto per te.
Par Dora Lou. Et maintenant une histoire tout en SMS par Patrice Delbourg. Un amoureux des mots et de la chanson, un brin nostalgique, Patrice, qu'il aime, se retrouve dans tous ses exercices papous. Même si on lui demande d'écrire une histoire de SMS, eh bien il est tenté de parler de ses chanteurs préférés ou de sport ou d'hypocondrie. Aujourd'hui, il est au spectacle et il tape sur son clavier tout en écoutant, comme d'autres joueraient du piano. À vous, Patrice Delbourg, le décor.
Palais des Sports, 21h10.
Je suis debout sur le côté. Vision pas terrible. Ne regrette rien. Et un monde dingue. Souchon est en velours noir.
21h14.
Oui, le costume palatine qui lui va si bien. Tu sais, celui qu'il portait au zénith de Reims. Il encore élancé pour son âge. Un courant d'air l'habille. 21h21. Tu crois? Non, il doit avoir l'âge de notre voisin, Gondry. Je suis tout prêt. Sous l'estrade, je scrute. Rien, rien. Pas de botox, pas d'implant, pas de teinture, rien. 21h28. Et dire qu'il disait qu'il ne voulait pas souchonner le troisième âge venu. Si tu voyais la forme qu'il tient, il saute partout, un vrai jouvenceau. Tu pourrais en prendre de la graine avec ton pneu. 21h34. Il n'a pas très bonne mine quand même, un peu pâleau. Ça doit être les éclairages, ça creuse les traits, les éclairages. Et puis, d'être patraque, c'est un peu son fond de commerce, non? 21h49. Il est né à Casablanca. Quand on voit le jour dans les anciennes colonies, on reste longtemps fragile des bronches.
Ah bon?
22h12. Tu vas voir qu'il ne va pas nous chanter Tartagueule à la récré. On est venus tous pour ça et il ne va pas nous chanter Tartagueule à la récré. 22h28. Dis, regarde vite sur Wikipédia, j'ai 10 ans. C'était bien la Rose d'Or d'Antibes en 73, non? 22h39. Souchon, il vote à gauche, non? Sinon, ses chansons n'auraient pas de sens. Merde, je me suis taché avec un gros esquimau praliné. 22h47. Ah, j'oubliais, Woolsey assure bien le coup aussi. Il a peut-être grossi un peu, lui. C'est la première fois que je les vois tous les deux, ensemble, sur scène. C'est drôlement émouvant. 22h59. Ça se termine, on se lève, on trépigne, on reprend tous en cœur. Vite, c'est quoi déjà les paroles dans Foule Sentimentale? Juste après, on nous Claudia Schiffer, on nous Paulus Sulitzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire. 23h04, quatre appels, un triomphe. Je vais aller dans les loges. Tu veux que je fasse signer ton foulard Hermès ou ton carré de chez Dior?
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête jusqu'à 13h59 au micro Françoise Tressard et la bande des papous du jour à suivre un jeu avec les contrepaix honnêtes et le DLA ou diagnostic à l'aveugle avec Dominique Muller, Jacques Jouet, Patrice Minet, Gérard Mordia et Patrice Delpour. Alors je vous signale un très joli petit recueil de contrepétrie de Joël Martin, le spécialiste, qui vient de paraître aux éditions First, des contrepétries honnêtes comme celles que nous jouons à inventer. Tenez, exemple. Un daim dans le bois qui donne un doigt dans le bain. C'est propre, non? Ou alors, un phocéen étudiant liste qui devient un lycéen étudiant Faust. Mais attention, Joël Martin ne pousse pas l'exercice jusqu'à imaginer une histoire qui relie le contrepé à sa face cachée. Ce jeu, nous sommes les seuls à le pratiquer. Et pour nous, le contrepé est la cerise sur le gâteau. Mais bien sûr, l'important, c'est l'histoire racontée. Un petit mot sur la porte, l'art du contrepaix honnête, avec Jacques Vallée, Ricardo Meusner et Odile Conseil. À vous l'honneur, Jacques Vallée. Elle se présente comment, votre histoire?
C'est un poème bucolique.
Il y a la nature, il y a des oiseaux.
Il y a tout. C'est vraiment très, très bucolique.
Et vous voulez dire bucolique cucu ou bucolique...
Un peu, poétique, disons. Poète.
Ah ben, c'est pas la même chose, hein. Jean-Bernard Puy ne joue pas à ce jeu, mais bon, il a une définition très stricte du poète-poète quand même. Bon.
Le contrepoète porte sur le premier vers « J'avais eu l'envie de siffler ».
Bon, écoutez, faut pas vous en priver. Hein.
Ben oui.
J'ai eu l'envie de siffler, on sent des choses. Hein.
Ça a l'air simple, mais ça n'est pas tant que ça.
Peut-être c'est moins simple qu'il n'y paraît.
Un faux ami contrepoète.
J'avais eu l'envie de siffler. Ah, c'est pas facile avec ce « j'avais eu », hein. J'ai l'impression que c'est la petite difficulté, c'est là que vous allez nous mener.
J'avais eu l'envie de siffler tellement cette heure était belle. L'air du matin m'a regonflé de sa fraîcheur intemporelle. J'ai rendez-vous sous le tilleul avec la reine des caprices. L'idée de me retrouver seule avec elle est un vrai délice. Elle s'appelle Ève. Prénom comme un premier matin du monde. Elle en avait la déraison. Elle était sacrément gironde. L'odeur des fleurs tourne les têtes. Le premier baiser est touchant. Je l'entraîne vers d'autres fêtes dans le verger au bout du champ. Justement, voilà un pommier.
Dans le verger au bout du champ.
Justement, voilà un pommier qui réclame qu'on s'abandonne. Une haie où se réfugier et des abeilles qui bourdonnent. Nous n'avions pas fait attention. Elles étaient vraiment nombreuses. Et comme nous les dérangions, singulièrement ombrageuses. Nous étions au milieu de ruches que le parfum d'Ève énervait. Ce qu'aussi, moi, je ressentais. « Il faut rabattre ta capuche !» J'essayais de la protéger. Elle courut, à demi-folle. Je lui dis de ne pas bouger. Mais Ève excitait les bestioles. Elle n'écouta pas mes conseils. Elle aurait dû s'en mitoufler. Elle était entourée d'abeilles. Je l'ai vue, livide, s'enfler.
Ah ben oui, elle est allergique. Elle va nous faire un œdème de quink, on dit, ou quink, je oui. ne sais jamais.
Et l'envie de siffler devient livide, s'enfler.
Et j'avais eu, en fait, ne bouge pas.
J'avais eu, c'est je l'ai vu, parce qu'il fallait lever pour...
Ah oui, d'accord, d'accord.
Mais c'est surtout l'envie de siffler.
Alors, j'avais eu l'envie de siffler.
Je l'ai vu, livide, s'enfler. Il suffit de déplacer le « en », on met un « i », et puis voilà.
Le tour est joué. Ben, c'était beau comme de l'Odile Conseil, vous voulez que je vous dise.
Parce incroyablement que Odile... bucolique.
Ah mais oui, elle fait du total bucolique parfois. C'était très beau, Jacques, hein. Et rien à redire. Alors, à un moment donné, dans votre barbe, vous avez dit, quand la phrase suivante est passée dans la bouche de Jacques Vallée, il a dit « dans le verger, au bout du champ ». Patrice, comment vous avez eu une petite mimique, vous avez marmonné?
Oui, parce qu'on dirait vraiment le début d'un contre-pied. Le verger au bout du champ,
oui.
Et effectivement, il y a le berger au chou du banc, au banc du chou.
Ah oui.
Et il y a, c'est un nid.
D'accord, mais c'est pas un nid de Canada Dry, comme non, François Karadec appelait les faux contre-paix, non?
Les paysans vont au champ en bande en caressant le cou de leur bœuf, c'est un grand classique.
Le cou de leur bœuf, oui. Ah, le bout de leur queue, oui, d'accord, j'y suis.
Bien. Bravo.
Si tu non, bravo.
Ah non, mais je progresse. Hein. Bien, après ce ravissant poème de Jacques Vallée, c'est à Ricardo Mosner de jouer à imaginer une histoire contre-pétrique. Alors avec Ricardo, et pour cause de très légères pointes d'accent argentin et d'imagination débordante, le contre-pé devient musical, homophonique, décalé. Vous vous lancez, Ricardo. Vous avez écrit un poème, vous aussi?
Non, c'est une histoire.
Oui, en prose, donc.
Qui commence « La motion de la pomme dans sa poche ».«
La motion ?»
De la pomme dans sa poche.
C'est comme une motion de censure, c'est ça?
Comme une motion, une proposition.
Oui, ça s'écrit de la même façon.
Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, comme motion, parce qu'il y a à voir avec les mouvements aussi.
C'est-à-dire que le sens est étrange, quoi. Une motion d'une pomme dans sa poche.
Vous verrez bien que c'est cohérent avec les textes, même si les textes n'est pas cohérent.
Avec vous, tout est toujours cohérent.
Oui, cherchez la définition.
Voilà,
oui,
voilà. C'est qui me correspond le mieux.
C'est la cohérence. C'est ce qui fascine Ricardo ou la cohérence.
La cohérence interne, mais...
D'accord, bon, très bien, on vous écoute.
La motion de la pomme dans sa poche, il sortit dans son jardin. La lumière de la lune dans son prisme s'est décomposée ainsi. 30% des pigments de blanc titanium, 15% de jaune de Naples, 20% des transparents gélatineuses, le reste de décomposition de la lumière est infini. Il continue à se diviser et à se subdiviser sans jamais s'attendre la racine de zéro. Vous avez deviné, vous êtes très très cultivé. Mon personnage n'est pas Adam, qui est connu aussi pour sa pomme, ni Guillaume Tell. Qui nous reste-t-il? Newton, Isaac. La scène se déroule ainsi. Il est sorti dans son garden de Kensington sur tonne. On ne voit que son torse. Excepté au musée Madame Tussaud, on ne voit jamais Newton en entier. Il ne devait pas avoir de belles jambes, les gars. Maintenant, les astres ont fait leur pirouette démocratique, même régime pour tout le monde, allez hop, un jour est passé. Et comme tous les jours, le thé est servi avec des scones d'une masse gravitationnelle proportionnelle à la force qui supporte l'assiette. Newton pose les prismes et la cuillère qui, avant d'atterrir sur la pelouse, flottent dans l'air. Le flottement est subjectif. C'est expliqué dans l'Arcanum Hermeticum. En tout cas, Isaac Newton tend les bras au ciel, ferme les yeux et ne prie pas. Il a peur d'être espionné au télescope par les brigades cartésiennes. Mais il attend. Il attend quoi, Newton? C'est pas le titre d'une chanson d'Olivia, Olivia Newton-John. Elle aussi est au musée des Cires. Bref, Isaac Newton, les bras vers les galaxies, n'attend pas la tombée d'une pomme. Pour ceci, il n'est pas idiot, il irait sous un pommier. Il attend une dame. N'importe. La Vierge de Botticelli, peut-être. La Vénus de Velázquez. La brodeuse de Kensington Street, qui a cousu ses initiales sur tous les chapeaux qui couvrent ses horribles perruques. Mais il se méfie d'elle. Elle brode pour d'autres scientifiques. Elle pourrait être une espionne qui dévoilerait toutes ses dernières découvertes. Alors, les bras tendus au ciel, il attend que ça tombe. Et muet comme une tombe, il ne parle pas de sa plus grande recherche que lui prend toutes ses nuits depuis son adolescence, l'élixir de l'amour. Il a fait plusieurs potions qu'il a vendues sous le manteau et sous le pseudonyme Artisticus Quorum. Il voulait que d'autres les testent avant de les mettre à l'emploi. Isaac est un empirique, mais il lui manque toujours un élément à son gris-gris. Il cherche désespérément. Développant les principes de l'inertie, avec des doses d'accélération des fluides, le 2 octobre 1692, il crée un produit immatériel, une espèce de cuvette spatiale invisible à utiliser au moment de la romance. Des baffes et des missives très désagréables avaient confirmé la nullité de ses approches ésotériques de l'amour. C'est finalement dans la force de l'âge qu'il met au point des éléments secrets pour une potion en appliquant les principes suivants. La nature et ses lois chissent dans la nuit. Et il attend toujours dans la même position, au milieu de la nuit, au milieu du jardin. Il fait expérimenter son produit à d'autres, et cette fois les résultats sont plutôt convaincants. Mais pour Newton, ça ne marche pas. Les témoignages de Miss Colette Allais les confirment. Attirée par des irrésistibles émanations, elle tombe du ciel dans les bras de Newton. Son témoignage est d'une très grande gravité et d'une encore plus grande cruauté. À la question « Alors, comment ça s'est passé, Miss Allais ?» L'élément secret dans la potion a-t-il fait son effet? Elle répondit non. Après son interrogatoire plus sévère, mené par la société Alchimie, Algèbre et Aliénation, Colette Allais déclare « Selon mes diverses expériences, ainsi que celles de mes collègues féminines de toutes les nébuleuses et galaxies, l'élément découvert par Isaac Newton ne fonctionne pas dans la potion de l'homme moche. »
Ah, c'est fini.
La motion de la pomme dans sa poche, pas dans la potion de l'homme moche.
Oui, c'est l'homme, marrant parce que ça paraît plus
l'homme,
gros.
L'homme, pomme, poche, moche, motion, potion.
Ah bah oui.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut chercher de plus.
Non, peut-être c'est l'histoire qui est très complexe à suivre.
Non, très simple.
Vous pourriez, Odile Conseil, la résumer en trois lignes.
Les inventions méconnues d'Isaac Newton.
Très bien.
Mais si on connaît la vie d'Isaac Newton,
tout est vrai.
Biographique.
Quelque chose à redire, Patrice Caumont?
Ah non, non.
Vous pouvez.
Ah non, non, surtout pas. Non, non, l'histoire est fascinante.
Bon, Odile Conseil, on joue avec vous. Une histoire, un contre-paix et sa face cachée.
Absolument. Alors, j'ai tenté de faire un contre-paix très riche, un peu à la Patrice Caumont.
Oui.
Je ne suis pas sûre d'y être tout à fait arrivée. C'est une lettre.
Oui.
Les maisons de Pavie sont posées sur des pavés, ma mère.
C'est ça porte sur tout ça.
Absolument.
Les maisons de Pavie sont posées sur des pavés, ma mère, c'est bien ça. Hein?
Oui.
Ça sent le contre-paix.
Les maisons de Pavie sont posées sur des pavés, ma mère. Vous me direz, ma mère, que ce n'est pas absolument extraordinaire, mais je voulais faire ainsi écho au début de ma lettre précédente, vous en souvenez-vous, évoquant les palais de Venise qui tiennent sur des pilotis. Vous m'avez répondu que tout ça ne vous semblait pas bien stable et conseillé de ne pas trop m'attarder à Venise. De fait, j'ai quitté la Sérénissime. La touffeur de l'été y exhalait de pestilentielles odeurs. Ça sentait la mort à Venise. Mon arrivée à Pavie m'a ravie. Qui n'a pas vu Pavie n'a pas vraiment vécu sa vie. N'est-ce pas votre avis, ma mère? Non, c'est vrai, vous n'avez jamais quitté votre pavillon. Si Stendhal avait séjourné ici plutôt qu'à Parme, nous nous délecterions aujourd'hui de la chartreuse de Pavie, et Parme ne serait guère plus qu'un nom de jambon. Ici, c'est l'heure crépusculaire qui vous enchante le cœur et fait voler votre âme quand les pavesans et les pavesanes sortent barques et kayaks et se laissent glisser sur les canaux pour s'éclabousser de la fraîcheur du soir. Hier, une course improvisée s'est ainsi déroulée sur le Naviglio Grande, le grand canal, si vous voulez. Ils étaient des centaines à pagayer gaiement. Il y eut des accrochages, des tamponnages, des chavirages, tout cela dans la joie et la bonne humeur, sauf pour une poignée de bateaux meurtris, cabossés, troués, qui vinrent s'échouer sur la rive, tandis que les équipages rejoignaient la terre ferme à la nage. Ces coques gisant sur la berge, comme les reliefs d'un festin trop vite interrompu, ont fait ressurgir en moi les images de cimetières de bateaux rencontrés lors de mes pérégrinations. Je vous ai raconté dans de précédentes lettres ces épaves abandonnées en Russie, désossées au Bangladesh, envasées à Camaret ou dans je ne sais quel aber breton. Et j'ai réalisé alors tout le temps que j'avais passé, que j'avais perdu, à contempler ces carcasses rouillées. Oui, ma mère, le constat est amer. Les saisons de ma vie sont paumées sur des marais d'épaves.
Chapeau, non ?
Magnifique.
Les maisons de Pavie sont posées sur des pavés, ma mère.
Les saisons de ma vie sont paumées sur des marais d'épaves.
Mais bravo, Odile. Bravo. Chapeau, Ricardo. Soulevez votre chapeau.
C'est très, très beau.
C'est très beau et c'est parfait, non ? Peut-être pas tout à fait.
Les contrôleurs qui se pencheront dessus à la loupe verront un petit défaut.
Non, mais c'est bien.
Ah bon, on ne va pas te chercher le défaut. Non, non, quand c'est beau. Puis voilà. Puis la perfection est très ennuyeuse.
Merci, Françoise.
Pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, il serait donc dans tel amour. Sur ses doigts, nature les couleurs du jour, et qui nous n'oublions pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras, que je n'aimerais jamais. Si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui en et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi.
Et si tu n'existais pas, version Iggy Pop. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, le DLA. C'est l'instant de tous les dangers. Celui de perdre la face, celui de risquer une blessure d'amour propre, mais c'est pas mortel. Juste un peu désagréable pour l'ego des experts qui se frotteront au piège littéraire que leur soumet aujourd'hui Dominique Muller. Elle a choisi un petit bout de littérature qu'elle lira sans donner aucun indice sur sa provenance, pas même le nom de l'éditeur, ce qui pourtant serait très éclairant sur certains auteurs, mais non. Ensuite, nos experts, tous écrivains, Jacques Jouet, Gérard Mordillat, Patrice Minet, Patrice Delbourg, réfléchiront à voix haute, traceront leur chemin vers un auteur qui aurait bien pu écrire ce petit bout de littérature en répondant à mes questions. C'est difficile, c'est amusant, c'est piégeux. En deuxième chance, Dominique Muller a préparé une liste de 3 noms possibles. C'est parti, Dominique nous fait la lecture.
Nelly, en effet, était réveillée. Elle savait, elle, ce qu'avait été son sommeil, une sorte d'étourdissement, celui qui suit le coup de matraque sur le crâne. Elle ne doutait que le mot dit au hasard par Réginald ne fût ce coup. Elle se réveillait endolorie. Elle trouvait à son réveil cette vérité terrible qu'un jour Reginald allait tout savoir. Si elle hésitait à se retourner, c'est qu'elle voulait attendre encore un peu avant de voir ce nouveau Reginald qui était là, derrière elle, qui n'était plus le Reginald éternel auquel la vie l'avait lié pour toujours, mais désormais un Reginald passager, un Reginald de mois, de semaines, peut-être de jours. Se coucher avec quelqu'un qui est toute votre vie pour toujours, et se relever avec un compagnon passager, c'est une triste aventure. Et c'est celle qui lui arriva. Derrière elle était son ancien bonheur, il était là, accumulé contre son dos comme contre une digue. Reginald y baignait encore. Un mouvement et il allait être à sec. Et désormais il serait un bien menacé, fugitif. Ces 3 heures quotidiennes, qui étaient dans la vie courante l'affleurement d'une vie sûre, permanente, éternelle, allaient devenir des heures divisées en minutes, des reflets, des incertitudes. Nelly en comptait déjà les secondes.
Waouh ! Quel beau texte ! Enfin, je trouve. Vous n'avez pas l'air du même avis que moi, Gérard Mordillat.
Oui, c'est beau avec, je dirais, un peu des montagnes russes, avec un peu des hauts et des bas, parce que il y a des choses... Nelly, en effet, était réveillée. Le « en effet » soudain paraît un peu lourdingue. Elle savait, elle, ce qu'avait été son sommeil. Toutes ces choses qui, à mon sens, ralentissent la narration et donnent un côté un peu précieux à tout ça, et qui font que je ne peux pas adhérer entièrement à la beauté du texte.
D'accord.
Mais c'est curieux, surtout.
Ouais, c'est sûr que ce n'est pas écrit comme un roman policier. Hein. On ne cherche pas l'efficacité, non, Patrice Delbourg ?
Non, moi non plus, je n'adhère pas du tout à la beauté de ce texte. Je le trouve un peu poussif. Et puis en plus, il y a pour moi quelque chose d'effroyable, c'est qu'il y a 7 fois répété Reginald. Et Reginald est à mes yeux sans doute le prénom le plus affreux avec Bruno, Lucien et quelques autres. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui s'appellent Reginald en ce moment. Mais c'est effrayant de s'appeler Reginald. Et on l'a 7 fois dans notre potage, regardez. Et bon, hormis cette phrase assez agréable, se relever avec un compagnon passager, c'est une triste aventure, ou une compagne, les intermittences du cœur me passionnent pas beaucoup.
Bon, vous êtes bien sévère. Est-ce que quelqu'un aime ce texte, Jacques Jouet ?
N'ajoute pas l'hypocrisie à la lâcheté.
Mais encore.
Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup.
Oui.
Il faut bien chercher, mais...
Une seule.
Que quelqu'un mette 3 heures à se réveiller, c'est un peu un exploit quand même. Hein.
Vous trouvez que c'est long ?
C'est un peu long, oui. C'est quelqu'un qui a du mal à entrer dans la journée.
Dans la vie, peut-être.
Dans la vie. Hein. Alors évidemment, ça donne à ce texte un rythme un petit peu désespérant de lenteur.
Oui, mais ça ne doit pas
Et
vous
dans
gêner,
les trois, ça, dans les 300 si... pages...
Oui, vous pensez oui. 300, oui.
J'ai peur que ça soit difficile.
Patrice Minet, est-ce que vous aimez ce texte, vous ?
Moi, je trouve que c'est pas un texte ennuyeux. Je le trouve même un peu délicat. Il y a des trucs que j'aime beaucoup, parce qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire la succession d'adjectifs pour désigner la même chose.
Dites-nous.
Une vie sûre, permanente, éternelle. Permanente et éternelle. Hein. Bon, permanente, c'est un peu coiffeur, mais... voilà, divisé en minutes, des reflets, des incertitudes. Vous voyez ce genre de scansion.
L'excès moi, j'aime... de détails.
Oui, ça donne un sentiment.
Lequel voilà. S'il vous plaît.
Eh ben, on est dans une description psychologique.
Oui.
On n'est pas dans le comportementalisme. Moi, je préfère l'action. Hein. Et là, il n'y en a pas du tout. Donc, ça donne une espèce d'action par les mots. Des mois, des semaines, peut-être des jours. Peut-être, voilà, on peut supprimer ça. Mais en même temps, moi, j'aime bien ça... C'est vrai que je ne lirai pas 400 pages comme ça.
Ah bon ? Non, mais il a parlé de 300, Jacques Jouet.
Tout augmente.
Bon, alors, on a ces deux prénoms, dont un que Patrice Delbourg n'aime pas. Il y a Nelly, quand même, aussi.
Ah, Nelly.
Cette femme, oui.
Hein ? Nelly.
Alors, ce sont des personnages français, écrits en français, qui jouent leur vie en français, ou c'est une traduction, Gérard Mordillat ?
Ça peut être une traduction, à mon avis, c'en est même, et qui se situe dans un milieu anglais plus ou moins aristocratique. Je pense que c'est une sorte de grand drame bourgeois dans l'Angleterre, parce que Il y a deux choses quand même qu'il faudrait arriver à éclaircir.
Oui.
C'est quel est le mot dit au hasard par
oui.
Nelly.
Oui, oui.
C'est la grande question de l'histoire.
Et, oui.
Et puis, ça ouvre à connaître ce que Reginald allait tout savoir.
Exactement.
Jacques Jouet, vous qui êtes romancier également, pas qu'expert à ce jeu, qu'est-ce que c'est ce mot, vous pensez? Vous pouvez l'imaginer?
Oui, c'est un autre prénom.
Oui.
D'homme?
Non, de femme.
Ah bon?
Parce que c'est Reginald qui dit ce mot.
Oui.
Donc c'est un nom de femme. Mais de son côté, Nelly a aussi un secret qui est un nom d'homme. Donc il y a une espèce d'équilibre qui se fait là, dans cette scène.
Oui.
Et brusquement, leur relation change radicalement. Alors ça, c'est pas du tout inintéressant. C'est qu'ils sont dans une position étrange, dans ce lit, tous les deux.
Oui.
Probablement en levrette, probablement.
Oh mon Dieu, on manque de détails. Ah bon, et c'est à ce moment-là qu'il lâche les noms. Vous croyez que psychologiquement, c'est le bon moment?
Derrière elle était son ancien bonheur, c'est-à-dire... Un mouvement et il allait être à sec, c'est aussi d'une hardiesse que je ne voudrais pas éclaircir trop.
Oui.
Ah, vous pensez que Dominique a choisi un roman érotique, disons?
Oui, je pense que c'est un
vous
roman
Vous pensez
érotique,
que c'est ça? Regardez le visage stupéfait de Dominique. Vous avez le droit de parler, Dominique.
Ah oui, je suis scandaleuse, je suis outrée. Bon, Moi, j'allais prendre chose. Enfin, franchement.
Ouais, non, c'est bien mal la connaître.
Je sais pas, mais...
Oui, Patrice...
Jacques a raison, on est dans une situation... Bon, moi, Dieu sait si j'aime les romans où il ne se passe rien, mais là, l'auteur exagère quand même. Parce que franchement, moi, c'est... Bon, il y a deux êtres, un peu, qui sont là, quasiment à l'orée de l'orgasme. Il faut bien dire les choses comme elles sont.
Ah oui.
Hein, un mouvement, il allait être à sec, et désormais, il serait un bien menacé, fugitif. Alors là, il y a une écriture un peu jazzy, un peu moelleuse, qui est pas mal, mais... Le reste, savoir ce prénom, en fait, on s'en fout un peu. C'est deux bourgeois sous barbiturique et l'homme va pas tarder à jouir, point barre.
Moi, j'aimerais bien, Dominique Müller, qu'on réécoute ce texte, parce que je n'ai pas du tout entendu ça dans votre lecture.
Justement, je vais faire une lecture un peu plus sèche.
Écoutons attentivement.
Nelly, en effet, était réveillée. Elle savait, elle, ce qu'avait été son sommeil, une sorte d'étourdissement, celui qui suit le coup de matraque sur le crâne. Elle ne doutait que le mot dit au hasard par Reginald ne fût ce coup. Elle se réveillait endolorie, elle trouvait à son réveil cette vérité terrible qu'un jour Reginald allait tout savoir. Si elle hésitait à se retourner, c'est qu'elle voulait attendre encore un peu avant de voir ce nouveau Reginald qui était là derrière elle, qui n'était plus le Reginald éternel auquel la vie l'avait lié pour toujours, mais désormais un Reginald passager, un Reginald de mois, de semaines, peut-être de jours. Se coucher avec quelqu'un qui est toute votre vie pour toujours, et se relever avec un compagnon passager, c'est une triste aventure. Et c'est celle qui lui arriva. Derrière elle était son ancien bonheur. Il était là, accumulé contre son dos comme contre une digue. Réginald.
Non, Patrice Delbon fait des signes pour prouver à quel point c'est érotique. Redis tout ça encore une fois. Non, je ne vois pas non plus, moi.
Ou alors nous sommes bien naïves et bien... Oui.
Probablement.
Et oui. Derrière elle était son ancien bonheur. Il était là, accumulé contre son dos comme contre une digue. Reginald y baignait encore, un mouvement, et il allait être à sec, et désormais, il serait un bien menacé, fugitif. Ces 3 heures quotidiennes, qui étaient dans la vie courante, l'affleurement d'une vie sûre, permanente, éternelle, allaient devenir des heures divisées en minutes, des reflets, des incertitudes. Nelly en comptait déjà les secondes.
Ben moi, j'adore ça. Vous voyez, je lirais très volontiers la suite. Je vois pas du tout le côté.
Moi non plus, le côté cochon.
Cochon, alors là, absolument
pas.
Pas
du tout cochon.
Non, mais vous voyez le côté.
Le vrai,
tout ça, non. Je sais pas.
On peut changer de mot si vous préférez.
Je crois pas que Patrice Minet voit ça non plus.
Non, je vois ça plutôt sentimental.
Voilà.
Derrière est son ancien bonheur.
Mais ils sont couchés dans un lit, en petite cuillère, si vous préférez. Et elle n'ose pas se retourner. Elle s'est endormie avec une personne, un garçon. Et elle n'ose pas se réveiller parce qu'elle a peur de voir le visage de la personne qui est à côté d'elle. Ça n'est pas érotique, c'est sentimental.
Voilà,
et on parle du cœur.
Voilà, mais c'est un être exquis, normal, Patrice.
Dans quoi Reginald baignait encore?
Mais dans ce bonheur, dans son ancien bonheur.
Un mouvement, il allait être sec.
Mais aller au bonheur, on sait ce que ça veut dire.
Ah bon?
Oui,
ah bon.
Mais ça dépend des livres.
D'abord, on va au chagrin, puis on va au bonheur.
Ah oui, on ne doit pas vivre de la même façon tous.
et en plus, moi, je pense que ça n'est pas érotique parce que, contrairement aux opinions qui ont été émises, moi, je trouve qu'il y a une forme d'esprit, d'humour.
Oui.
C'est-à-dire qu'on propose des images qui sont pas naturelles. Derrière, elle était son ancien bonheur. Et puis, Réginald y baignait encore. Enfin, tous ces mots-là peuvent être interprétés avec esprit.
Oui, la preuve. Oui.
Non, mais avec esprit.
Ah ben voilà, évidemment.
Mais là aussi, il y a de l'esprit. C'est la situation de la chanson de Gainsbourg.
Laquelle?
La chanson qu'il a enregistrée
avec
Bardot.
Je vais et je viens.
Oui, c'est exactement, nous sommes dans ce
entre
moment-là.
Entre terrain.
Oui.
Et tu me retiens?
Exact.
Ah bon?
Ah bon?
Mais
alors bon, est-ce que c'est écrit en français? Alors, certains ont dit que
non,
peut-être pas.
Moi, je pense que c'est traduit. Et je pense que c'est d'ailleurs un auteur qui doit produire beaucoup, beaucoup. Puisque très visiblement, elle avance en réalité. Parce que je pense que c'est une femme qui a écrit. Elle avance sans plan. Et donc, elle se...
Parce que c'est une femme, c'est ça.
Ah oui, alors,
vous noterez Dominique, oui, elle ne sait pas où elle va.
Excusez-moi, mais...
Ah non, mais il est...
Ah oui,
elle est aveuglette, parce que toutes les deux lignes, elle reprend Réginald en se demandant ce qu'elle va faire de Réginald.
Mais allez-vous cacher, Gérard.
Et Réginald, non, mais je n'ai pas honte du tout. Donc, à chaque ligne, elle continue comme ça, comme on écrit au fil de la plume. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, elle fait un commentaire sur ce qu'elle écrit. C'est une triste aventure, et c'est celle qui lui arriva. Elle n'en revient pas, elle a enfin trouvé ce qui va être l'aventure qu'elle va raconter. Alors allons-y, on y va. Et elle s'est repartie pour un tour. C'était elle, son ancien bonheur, accumulé contre son dos, etc.
Ouais.
Et hop, on revoit du Reginald. Donc il y a un côté très ritournel de quelqu'un qui doit fournir du texte et qui, fait le boulot pour y arriver, mais qui y va comme ça, en chute libre.
Quand on saura de qui est ce texte... Je prie les auditeurs de retourner avec le podcast, vous écouter à cet instant précis. Vous pensez qu'il a raison, Patrice?
C'est une femme qui a écrit, et c'est une femme qui l'a écrit un peu rapidement, sans doute pour payer des dettes.
C'est un indice. Vous avez un nom à proposer. Ça appartient à un gros roman érotique, alors, Jacques Jouy, puisque vous en tenez pour l'érotisme, ou c'est une petite nouvelle?
Non, je pense que c'est un texte érotique, mais c'est un moment d'un texte érotique qui ne l'est pas beaucoup.
Pas trop,
du fait de la situation. C'est-à-dire que c'est un moment déceptif du point de vue de l'érotisme dans ce roman érotique.
Ah oui. Et est-ce que c'est un écrivain qui ne fait que ça, ou c'est quelqu'un qui est journaliste ou qui est historien et qui a eu envie un jour d'écrire une histoire?
C'est un écrivain, mais qui fait de la série.
Oui.
Oui, moi, c'est ce que je crois aussi. C'est quelqu'un qui écrit, et qui écrit beaucoup, d'ailleurs, et qui doit fournir du texte. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt de la traduction, parce qu'il y a des choses qui me paraîtraient en français plus élégamment dites, même par quelqu'un qui le fait comme ça un peu à la suite.
Mmh.
En même temps, il y a cette chose assez intrigante là aussi, le coup de matraque sur la tête, l'étourdissement, le coup de matraque sur la tête. L'image est curieuse.
Bah, on est toujours dans le récit un peu érotique.
Oui, c'est ça, oui.
Bien sûr, un coup de matraque, ça va tout à fait normal.
Elle est toute en cuir et la tête, bing, bing.
Non, mais quel est le mot dit au hasard par Reginald sur ce coup? Ne fut ce coup.
Vous avez dit que c'était un prénom de femme et qu'elle donnait un prénom d'homme. Alors, écoutez, j'ai l'impression qu'on a bien décortiqué ce texte.
Rien
à ajouter, mais peut-être des noms à lancer. Alors là, faites attention à vous. Je sais que c'est un jeu où l'amour propre est un peu en danger. Alors, on va voir. Qui a un nom à proposer? Patrice Delbourg, je sens que vous avez l'air réjoui en plus. Vous êtes content de votre nom?
Non, je ne suis pas très content de ce... Parce que ce n'est pas un de ces grands moments. Il y a des choses plus belles chez elle. Non, je dirais Françoise Sagan.
Ah,
Réginald, c'est bien son univers. Bon, elle écrivait beaucoup, mais elle buvait. Et puis, parfois, elle prenait des barbituriques, ce qui donne le côté un peu pâteux du texte, parfois. Hein. Et puis, parfois, des bonheurs d'écriture. Regardez, un mouvement, il allait être à sec. Et désormais, il serait un bien menacé, virgule, fugitif. Ça, c'est pas mal.
C'est joli.
Patrice Minet.
Moi, j'avais aussi noté François Sagan. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un comme Oscar Wilde, parce que je trouvais que dans l'écriture, il y avait des choses qui avaient un petit côté détonnant. Par exemple, se coucher avec quelqu'un et se réveiller avec un compagnon, moi, j'aime bien ça.
Ouais.
Et dans le texte, il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas vus, mais que je ressens. Alors, plutôt qu'Oscar Wilde, je vais dire oui, François Sagan.
À vous aussi.
Oui.
Oh là là, c'est très étonnant. Alors, cette anglaise ou américaine, genre Mandia, qui écrit beaucoup, d'après vous?
Oui, moi, je pense que c'est tout simplement dû à Agatha Christie.
Ah bon?
Oui.
Ah bon. Ça, dans Agatha Christie, et Hercule Poirot est derrière
la
porte.
Non, il n'y a pas que Hercule Poirot et Miss Marple dans Agatha Christie. Il y a d'autres romans. Et là, on pourrait être dans une situation au début d'un roman policier où il fallait savoir exactement... ce qu'est le mot dit au hasard et ce que Reginald allait tout savoir. Et le coup de matraque sur le crâne, eh bien, c'est comme dans le Cluedo, c'est l'instrument du crime. Non, ça colonel peut être...
C'est moutarde. Oui, c'est moutarde.
C'est moutarde, oui, c'est ça. Oui, colonel
mais
moutarde.
Dites-moi, vous avez souvent vu de l'érotisme chez Agatha Christie, on n'a pas dû lire les mêmes.
Les œuvrettes sont rares chez Agatha Christie. Hein,
chaque jouet. Alors avec vous, j'ai l'impression qu'on va avoir le nom d'un auteur érotique classique, non?
Oui, un petit peu.
C'est qui?
Mais c'est voilà, un auteur qui est entre la série, donc l'écriture un peu rapide, et puis le moment de réelle beauté d'écriture. Et oui. Moi, je pense que c'est du Anaïs Nin.
Ah oui, Anaïs Nin, pas bête. Alors, écoutez, Dominique Muller, je résume la situation. Nous avons deux Françoise Sagan pour Patrice Delbourg, pour Patrice Minet. Un Agatha Christie pour Gérard Mordillat. Ma foi, ça vaut une bonne cote, hein. Et puis une Anaïs Nin pour Jacques Jouet. Alors, y a-t-il un de ces noms dans votre liste de trois?
Aucun de ces noms dans ma liste de trois.
Oh,
aucun.
Enfin.
Bon.
Alors,
enfin,
vous avez
ils
perdu.
Ils peuvent se rattraper.
Oui.
Alors, ce texte est-il de Cartland, Barbara, Giraudoux, Jean, ou Kaiserling, Edward Fon, qui, je vous le rappelle, est un post-romantique.
Merci.
Plus connu pour ses pièces que pour ses textes de prose, mais il a fait aussi de la prose.
Jamais entendu ce nom-là.
Von Kaiserling. Vous pourriez nous donner un titre comme ça de Kaiserling, très connu.
J'ai été brûlant.
Transposé
au cinéma. Mais il y a eu des grands films flamboyants, comme ce titre l'indique d'ailleurs, qui ont été transposés au cinéma.
Bien, alors vous avez le choix entre Barbara Cartland, Jean Giraudoux et Edouard von Kaiserling. Qui veut se prononcer?
Moi, je pense que de Agatha Christie à Barbara Cartland...
Cartland,
j'ai du mal avec...
T'en as pas l'habitude.
J'en ai pas l'habitude. Il n'y a quand même qu'un pas, et donc je vais dire Barbara Cartland.
Oui, pourquoi pas, hein.
C'est une intuition.
Oui, Patrice Minet.
Alors, j'avais dit Françoise Sagan.
Oui.
Je m'étonne de ne pas la retrouver dans ces trois noms. J'ai pas lu Barbara ni Kaiserling, et j'ai lu Giraudoux. Et alors, dans Giraudoux, où diable peut-on trouver ce bout de texte? Et si c'est du Giraudoux, alors là, je vais relire ce livre. Et donc, je dis Giraudoux, évidemment.
Tiens, Patrice Delbourg, votre avis?
Barbara Cartland, ça sent pas ses habitudes sentimentales. Hein. Elle était... Plus...
Vous en avez beaucoup lu,
Barbara oui, Cartland. Bien sûr.
Ah bon?
Bien sûr, elle a meublé ma chambre d'écolier pendant longtemps, sous les armoires normandes. Non, je crois qu'il faut aller vers le plus étonnant. Kaiserling, je ne connais pas du tout.
Non, moi,
je ne connais pas
ce... Peut-être parce que je suis née en Alsace que je connais Kaiserling.
Ah bah oui.
C'est ce côté-là, quoi. C'est comme Hölderlin, mais un peu plus tard.
voilà. C'est avant Erckmann Chatrian, quand même.
Ah oui, très.
Bon. Alors, c'est Jean Giraudoux, parce que ça n'y ressemble pas du tout.
Eh oui.
Sauf qu'à Bellac, il y a souvent des levrettes. Mais enfin, bon.
Non, mais l'Apollon de Bellac, c'est une pièce.
Oui, mais il y a des concours canins.
Mais Réginald, ça pourrait être Giraudoux.
Ça pourrait être Giraudoux.
Oui, et Nelly aussi.
Et Nelly aussi, oui.
Nelly, je ne sais pas, Réginal, c'est possible. Oui. Il y a souvent des prénoms un petit peu farfelus, un peu désuets.
Isabelle ou des choses comme
oui,
ça.
Oui, c'est vrai.
Giraudoux. Écoutez, Jacques Jouet, est-ce que vous avez une opinion? Est-ce
ben
que
non.
Vous votez pour Kaiserling?
Kaiserling, je ne connais pas, donc ce serait malhonnête de voter pour ça.
Alors, il vous reste Cartland ou Giraudoux?
Oui. Sans conviction, vraiment sans conviction alors, parce que n'ayant jamais lu non plus Barbara Cartland,
oui.
Je vais dire, ouais, je vais peut-être dire Giraudoux aussi pour les heures divisées en minutes,
voilà,
les secondes, allant jusqu'aux secondes comme ça.
Ça fait très intermezzo.
Pourquoi pas?
Bah écoutez,
bon.
Dominique Müller, personne ne connaissant Eduard von Kaiserling, son choix a été rejeté par tous, hein, bien que l'été brûlant soit extrêmement célèbre.
Ah oui, mais...
Alors nous avons donc un Barbara Cartland pour Gérard Mandia, qui ne l'a pas lu.
Non.
Et,
non.
Et trois Jean Giraudoux, oui, pour Patrice Delbault, Patrice Minet, Jacques Jouet, qui ne reconnaissent pas Giraudoux, mais qui veulent miser sur la grosse cote.
Eh bien, il y a trois gagnants.
Ah, ouais.
Après avoir dit que ce texte était nul, ouais, il est de Giraudoux.
Mais c'est dans quoi?
C'est un piège. En fait, vous avez tous raison, car c'est une commande. Patrice a dit qu'il tirait à la ligne,
oui,
il avait,
oui,
des dettes. Gérard aussi a fait allusion au fait que c'était écrit un peu vite comme ça. Et en fait, c'est une commande. Le texte très court s'intitule « Sur une dormeuse » et il illustre des dessins de Derain dans un volume de Verve. Le dernier volume de 39-40.
Ouais.
Et en fait, il illustre naturellement des dessins d'une femme de dos.
Ah,
voilà, c'est tout. Et ça s'intitule « Sur une dormeuse ». Et c'est un texte assez intéressant, assez court, mais qui commence par « Je sais tout ». Et nous, le lecteur, on ne saura jamais de quoi il s'agit.
Ah,
et
oui,
là, je vous ai donné la fin.
Oui.
C'est-à-dire que cette tension, quelque chose va s'achever, et nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'il sait.
Oh.
Voilà.
Mais cette femme est nue, allonguée sur un lit.
Absolument nue, oui,
ah bah
comme
oui,
les dessins de Derain.
Bah, oui, c'est ça.
Mais il n'y a rien de cochon, enfin, je veux dire.
Non, mais sans...
Il la regarde.
Pourquoi
il la regarde
cochon,
comme nous, qui feuilletons la revue.
La revue.
Verve.
Ah, la revue, oui.
Voilà.
Pardon.
Oui, essayez de suivre.
Oui,
non,
oui, c'est quatre pages, c'est pas plus.
Oui,
mais
c'est ça. C'est,
et je trouve que Patrice Minet avait très bien ressenti ce drame sentimental. Oui. Très,
c'est un
très
être délicat,
bah,
Patrice
Minet.
Il est
entouré de brutes.
Oui, oui.
Heureusement qu'il y en a un.
Oui.
C'est l'un,
oui,
des plus sensibles ici.
Il a absolument parfaitement traduit en quelques mots ce qui ressort de ces quatre pages.
Est-ce qu'on peut vraiment féliciter les trois gagnants?
Non, on n'est pas fiers.
Bon, Patrice Minet, Jacques Jouet.
Patrice Minet, sur le champ, a dit oui, Giraudoux, bien sûr.
Bravo, 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 Patrice Minet.
Oui, je félicite particulièrement Patrice, qui dès le début a tenu bon, malgré les remarques salaces de ses compagnons.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Manuel Couturier. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pour un retour sur écoute pendant un an. Pour vos questions, remarques, direction, commentaires des papous du jour. Pour les renseignements concernant les papous en public samedi prochain 6 février au Quartz de Brest, direction La Vie du Club, notre page Facebook ou le site Longueur d'onde. Au revoir, passez un très bel après-midi bien au chaud à l'écoute de France Culture.
Quoi, quoi ?